This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut tout le monde, c'est Yannick Noah sur Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, j'avais 9 ans. Il en avait 35. Il avait déjà arrêté sa carrière de joueur, mais il était encore sur un court, comme si c'était plus fort que lui. Il y a 1000 questions à lui poser, et ses réponses en appellent 1000 autres. J'aurai jamais assez de temps. Et puis je le connais, ça va partir dans tous les sens. Il met de l'intensité dans tout. Et puis tant mieux, c'est comme ça qu'on l'aime. Je suis Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange. Bonjour Yannick Noah.
Bonjour Tonio.
Est-ce qu'on se tutoie? On se tutoie alors, si tu m'appelles Tonio.
Comme ça va être direct.
Ok. Pour préparer cet échange, j'ai relu deux de tes bouquins là, qui sont là sur la table. Secret, etc. que j'ai chopé à mon frère et puis Noah par Noah. Et en fait, il me semblait important de partir de ces moments différents de ta vie. Parce que quand tu sors Secret, etc., tu viens de gagner la Coupe Davis en 96.
Mm-hmm.
Et quand tu sors Noah par Noah, t'as déjà basculé dans ta vie de chanteur. Tu remplis les stades déjà. Deux Noah différents ou pas. Il se trouve qu'il y a 4 mois, t'essayais encore de gagner la Coupe Davis en tant que capitaine, et qu'aujourd'hui, t'es en train d'enregistrer un nouvel album. Je me suis dit que ça tombait bien.
Parfait.
C'est bien, non?
Ouais, c'est parfait. L'intro, là, mais c'est parfait. Et au moins deux vies en une, déjà. Changer de déguisement. Et ouais, ça fait partie de... Alors, il y a cet aspect extérieur qui est l'apparent, le look... Et puis, il y a le combat intérieur, parce que forcément, quand tu me parles de la Coupe Davis, tu vois, capitaine, c'est une grosse responsabilité.
Ouais.
Tu vois, capitaine de l'équipe de France, c'est pas rien. Tu chantes la Marseillaise, c'est lourd. Et puis après, tu bascules, et tu dois te retrouver en studio où là, justement, c'est essayer d'alléger un petit peu ça, un peu tout ça, donner un petit peu de sourire, amener un peu de couleur, donner envie.
Ouais.
C'est peut-être le point commun, c'est que, ouais, donner envie. Mais tu passes pas je passe pas de l'un à l'autre comme ça, hein. Il y a des belles descentes. Après une compète, enfin, tu connais avec ton frangin, mm-hmm. Tu sais que gagner ou perdre, une fois que t'as terminé une saison ou une épreuve, gagner ou perdu, d'ailleurs, la descente, elle est plus forte quand tu gagnes. Il faut recharger les batteries pour repartir et ramener du soleil, des sourires.
Tu me fais aller vraiment en avant dans cet entretien parce que tu parles de la descente quand tu gagnes.
Mm-hmm.
T'en as connu une violente quand tu gagnes Roland 83.
Ouais, c'est en tout cas ma première grosse descente parce que je m'y attendais pas. Tu sais, t'es môme, tu rêves, on rêve tous. Moi, j'ai eu ce privilège d'aller au bout de mon premier rêve, qui était d'arriver à Roland et gagner la coupe. Le problème, c'est que le lendemain, tu te réveilles et t'as plus de rêve. Il n'y a plus rien. Donc tu sens un énorme vide intérieur. Et en plus de toi, tu regardes un peu autour de toi et personne ne sait où aller. T'as pas un conseil. Et c'est compliqué parce qu'en fait, à un moment où tu as envie de repartir, retrouver des énergies, retrouver de la force... Tu es entouré de gens qui te félicitent pendant des mois, parfois des années. Je veux dire, aujourd'hui, ça fait quoi, 40 ans, au moins, enfin 35 ans, ouais. Je sais plus. Si je marche dans la rue 10 minutes, il y a toujours quelqu'un qui va me dire « Oh, monsieur Noir, je me souviens où j'étais », et tout ça. Donc, si tu veux, c'est hyper confort. C'est très, toujours très touchant, toujours.
Mm-hmm.
Mais d'un autre côté, pour te remettre en question et pour te relancer, c'est très compliqué. Donc ouais, première descente. Et tu sais, c'est comme, je sais pas, tu passes un examen, tu bosses comme un taré, tu l'as, et puis le lendemain, tout d'un coup, il n'y a plus rien, quoi. Chaque fois qu'il y a un gros projet très lourd, il y a toujours cette espèce de descente. Et bon, bah avec le temps, je connais. Donc après, je gère différemment, je le vois venir, je le ressens. Mais je gère. Mais la première fois, j'avais 23 ans, c'était chaud. Hein.
Je repars en arrière. Puisque tu nais le 18 mai 1960 à Sedan,
ouais.
Où ton père Zachary joue au foot.
Mm-hmm.
Il a même gagné la Coupe de France avec ce club.
Ouais.
Il se blesse.
Mm-hmm.
Du coup, vous rentrez à Yaoundé.
Ouais.
Tu me dis hein, si je me trompe.
T'es au top.
Et là-bas, à 4 ans, c'est à 4 ans, on te file ta première raquette ou c'est plus tard?
Oh, non, c'est un peu plus tard. C'est bien plus tard, j'ai 9 ans.
Ah oui, 9 ans.
Ma première raquette.
Mais c'est pas n'importe qui te donne ta première raquette.
Ben non, c'est Arthur H. Arthur H, qui est le champion, un des meilleurs joueurs du monde, noir américain. Et il fait une tournée au Cameroun. Et puis, voilà, pendant les tournées d'exhibition, l'après-midi, joue avec les mômes. Et ouais, j'avais pas de raquette. Mes parents n'avaient pas de quoi me payer une raquette. Moi, une raquette, c'était un luxe. Quoi.
Ouais, bien sûr.
J'ai toujours respecté l'objet.
Ouais.
Mais aujourd'hui, des fois, tu sais, je suis à la case. Tu es dans des moments un peu, tu sais, de voilà, tu arrives à un âge où tu regardes un petit peu en arrière.
Ouais.
Et je regarde une balle. Et je dis, mais putain, où je serais aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet objet-là, cette espèce ouais. de balle-là. Et ouais, j'avais 6 ans, 7 ans quand j'ai commencé à jouer, on n'avait pas de quoi, mes parents pouvaient pas mâcher une raquette. Donc on prenait des planches avec mes copains, mm-hmm. des coups de machette, et on se faisait des espèces d'énormes raquettes de paddle,
ouais.
Fait main. On prenait des chambres à air, et avec les chambres à air, on faisait les cuirs,
oh.
pour que ce soit pas trop dur. Chacun avait une balle. Mais les balles, on jouait tellement, il y avait un terrain de boules sur lequel on pouvait jouer un truc en terre. On jouait là, on mettait des morceaux de bois, des chaises pour faire le filet. Chacun avait sa balle.
Ouais.
Moi, ma balle, pendant un an et demi quand j'ai commencé, j'avais une balle, il n'y avait plus de feutre dessus. C'était que le caoutchouc. Et ouais, ils arrivent, les professionnels arrivent, et l'après-midi, je jouais avec Arthur, j'avais des posters de lui dans ma chambre, c'était un truc de fou. Enfin, faut savoir qu'à l'époque, moi, j'habite dans une maison, on n'a pas l'eau, l'électricité. Hein. J'habite en brousse, moi.
Ouais.
On va chercher l'eau dans la rivière. Hein. Donc, j'arrive au club, je joue. Et puis, Arthur H, il était hyper surpris de voir un petit métis mm-hmm. black jouer. Parce qu'en fait, tous les gamins qui jouaient à l'époque, c'était les blancs.
Ouais.
Et tout d'un coup, ils voient le petit arriver. Ils avaient invité toutes les écoles pour voir ça. Et tout d'un coup, quand j'arrive sur le court, j'étais le plus petit. Les autres avaient 15, 16 ans. Moi, j'avais 10 ans ou 11 ans. Et là, peut-être que le petit là joue fort, hein. Le petit là plus joueur. Et dès que je tape la première balle, parce que bon, mais je touchais ma bille, mm-hmm. les gens hurlaient. Et Arthur, il était, mais tellement heureux, quoi. Parce que ouais, il avait découvert un petit môme, en Afrique. Et ouais, ça a été le début de mon histoire. Je termine le clinique, il me file sa raquette. Enfin, à l'époque, la aide Arthur H, c'est en gros pour te,
ouais.
c'est à peu près c'est 2 mois de salaire de mes parents, quoi.
Ah oui.
Donc il me file ça. Mon père, il travaillait, tu vois, il était dans le lobby d'une banque, ouais. Tu vois. Maman était prof de français et puis voilà quoi. Et donc je dormais avec la raquette. C'était un truc de malade.
Je fais une petite parenthèse sur ta maman. Elle a créé cette école. Elle a juste mis un panneau école maternelle, c'est ça? C'est comme
ouais,
ça.
Ouais, on était à la maison. On habitait donc à la campagne. Enfin, en brousse. Ouais. On n'était pas à la campagne, en brousse. Et maman en avait un peu assez de faire des allers-retours en ville. Et puis avait envie d'un autre projet. Et puis ouais, un jour, elle s'est dit, ben voilà, j'aime les enfants. On a un peu défriché.
Ouais.
On a mis 2 cabanes. On a marqué jardin d'enfants. Et puis quelques jours après, il y a des gamins qui commençaient à arriver. Et l'école existe toujours.
Ouais.
Elle existe toujours. Maintenant, on a 500 gosses. Ça va de la petite section. c'est moi qui m'occupe de ça. C'est super, c'est magnifique.
On revient à Arthur H. Ce qui est dingue, c'est que c'est lui qui te donne ta première raquette. Et quand même, tu arrives à jouer en double plus tard avec lui à Wimbledon. C'est quoi le sentiment à ce moment-là?
Tu sais, on se demande des fois pourquoi on joue.
Ouais.
Pourquoi on joue? Alors bon, tu joues. Moi, je pense que j'ai joué au tennis d'abord parce que j'étais pas assez fort au foot. parce que dans, tu vois, à l'école, au Cameroun, dans la rue, les mômes, ils jouent avec des bouts de, des morceaux de carton, mm-hmm. Ça jongle, c'est monstrueux. Donc, on faisait les équipes et moi, j'étais jamais pris. Donc, tu regardes, tu vois, quand il y en a un qui se fait mal ou qui se barre, bah, tu joues 5 minutes, enfin bref. Et puis, on allait au tennis. Et au tennis, j'aimais, il y avait 2 choses que j'aimais. C'est qu'il y avait, bah, les potes.
Ouais.
Et il y avait les filles. Et voilà quoi, donc mon truc, tu vois, j'avais 8-9 ans, alors on jouait au mur, on n'avait pas accès au cours plus tard, et on jouait contre le mur, tu vois, et voilà quoi, tu jouais pour impressionner les filles. Et ça en fait, c'est un truc qui est resté tout le temps, c'est toujours pour impressionner les filles.
Ouais.
Enfin, ça va, tu vois, t'arrives à l'adolescence, c'est toujours pour les nanas. Mmh. Je suis arrivé en sport-études. Et puis, quelque part, il y avait Arthur H qui était quelque part le mec qui m'avait donné un petit peu d'amour, quoi. Mmh. Et à travers sa raquette, et que j'ai gardé toujours. Et quelques années après, quand j'étais en sport-études, parce que je suis venu en France parce qu'il a parlé au président de la Fédé, qui était Philippe Chatrier pendant Roland-Garros, il était venu quelques mois après. Et là, il parle à Philippe Chatrier, il dit, écoute, il y a un petit gars au Cameroun, là, qui joue vraiment bien, vous devriez le voir. Mmh. Donc, c'est comme ça que je suis venu en France. Je me suis retrouvé en sport-études à Nice. Et quelques années après, ouais, j'avais 17 ans et on a reçu un coup de téléphone.
Ouais.
Comme quoi, Arthur H avait demandé une wild card. Et donc, on était invité à Wimbledon.
Wow.
Donc, 8 ans après, je me retrouve, 7 ans après, je me retrouve sur le central à jouer à Wimbledon avec Arthur H. Je te passe tous les détails parce que rien que cette séquence, c'est 8 jours. Mais je te dis, bon, mais t'imagines, quoi. Moi, je suis avec mon héros. On est juste avant d'entrer sur le central. Tu vois, tu passes du vestiaire, t'as une petite pièce, tu attends que les officiels s'installent. J'étais, et là, en face de moi, il y a Bernie Meaton et Andrew Pattison. Il est rhodésien, un, et l'autre sud-africain.
Ouais.
À l'époque de l'apartheid, Arthur, il se battait contre l'apartheid.
Ah,
et
ouais.
On joue contre ces 2 mecs, 2 blacks, Yannick, avec son petit protégé sur le central. Et là, tout d'un coup, il me prend une panique. Et là, j'ai les genoux qui se mettent à trembler, quoi. Je pense que je peux pas me lever. Et là, je demande à Arthur H. Les autres étaient en face de nous, hein. Et je demande à Arthur, is possible not play? Is possible not play? Et il fait, what? Les autres rigolent. Les autres rigolent. Et je dis, ouais, est-ce que c'est possible de déclarer forfait? Je peux pas jouer. Et là, il me dit, non, it's gonna be okay. Et en fait, on joue, on gagne le match 8-6 au 5e set.
Ouais.
Une ovation, 10 minutes avant de sortir, je lui saute dans les bras comme si, voilà, moi, pour moi, tout pouvait s'arrêter, quoi. Mm. Déjà, c'était, moi, pour moi, la boucle était bouclée et c'était terminé, quoi. Voilà, de Yaoundé à Central de Wimbledon avec Arthur, c'était juste pas possible. Et je saute dans les bras et lui, il me dit « Oh, Yannick, c'est seulement le premier tour.
» Tu l'as dit, c'est lui, Arthur H, qui a parlé à Philippe Chatrier à l'époque, le président de la Fédé. Donc c'est ça qui te fait partir en France et t'as dit quelque chose. Il y a une phrase très jolie que j'ai retrouvée. Tu dis de tes parents qui te laissent partir en France, justement. Et tu dis, ils se sont séparés de moi par amour.
Moi, je pars, j'ai 12 ans, j'ai ma valise, donc pour tu vois, ma life.
Ouais.
Et c'est ça, et voilà, mon aventure part de là. Et je suis plus jeune, donc bizutage, évidemment, enfin, les conneries que les jeunes font. J'ai les boules, je me dis, qu'est-ce que je fous ici? On bouffe à la cantine, c'est dégueulasse. Mais j'aime bien jouer.
Mm.
Et Patrice Beuss, mon coach, il est top. Et Patrice, et tous les week-ends, c'est les potes, ils partaient. Tu sais, les Moreton, Bedel, Zakini, Brim,
ouais. Lebeg,
ils rentraient chez eux le week-end. Ouais. Donc vendredi soir, je me retrouvais seul à la pension.
Ok.
C'était chaud. Premier week-end, deuxième week-end, c'était chaud. Et puis il y avait une petite qui était au club. Elle était super mignonne. Et je me dis, mais là, je peux pas. Non, mais là, c'était trop pour moi. C'était trop pour moi parce que pensionnaire, tu vois, c'était au Nice LTC, tu vois, le tennis à l'époque,
ouais.
Tu vois, moi j'étais, tu vois, c'était pas qu'elle était de la haute, mais bon, elle était trop belle pour moi, quoi. Et moi, j'étais hyper timide et je me dis, putain, c'est tout de suite, c'était mon objectif. Un jour, Sylvie, elle va me voir, mais il faut que je défonce. Et je m'entraînais comme un taré, mais tout le temps. Hein.
Pour une fille.
Pour une fille et pour oublier parce que je me faisais chier.
Ah,
c'est important, c'est important de s'ennuyer. Aujourd'hui, je pense que les gamins, ils s'ennuient pas assez. C'est important de s'ennuyer, se dire, bon, allez, je m'ennuie, là, j'ai rien à foutre, j'ai pas ce putain de téléphone. qu'est-ce que je fais? Donc là, tu, voilà. Et c'était un peu ça le truc. Et en fait, je comptais mes heures d'entraînement par rapport à, aux autres. Je me disais, quand ils se barrent en week-end, ils s'entraînent pas beaucoup. Le matin, ils se réveillent tous à 8h moins le quart quand le pion arrive.
Ouais.
Je vais essayer de gratter des heures d'entraînement. Donc j'allais le matin servir tout seul. Et là, je me grattais 45 minutes de service tout seul. Tout seul, j'allais en loose day.
Ouais.
Tu sais, je me planquais, genre. Et après, quand on faisait des entraînements, et par exemple, on faisait par exemple 2 footings par semaine, ben moi, en loose day, quand c'était fini, j'allais courir. Et je comptais mes heures d'entraînement comme ça. Et ouais, et à la fin, ça me faisait des semaines, je calculais, ça faisait 12 heures à peu près par semaine en plus. Parce que le week-end, alors là, j'y allais. Et puis, j'ai avancé comme ça. Je lui ai demandé si elle voulait jouer le mixte avec moi. Elle a accepté. C'était cool. Et elle a compté, quoi. Tu vois, la motivation, tu sais, on sait jamais d'où ça vient. Alors, tu sais, souvent, tu joues pour faire plaisir à tes parents.
Ouais, chacun sa rage.
Pour pas les décevoir. Souvent, pour faire plaisir à ta mère ou ton père ou les deux. Une petite nana. Et puis toi, quoi. T'as envie d'exister, quoi. Et ouais, c'était ça un peu mon moteur.
Ta carrière de joueur, t'as été 3e mondial au mieux, ça. T'as gagné 24 titres.
Ouais. 24 ?
Ouais.
Je croyais 23. Oh, dis 24, c'est bien. Ça fait mieux 24.
C'est 24. Je suis déjà tombé sur une vidéo de toi utilisée, mais en plus, j'étais pas doué, quoi. Tennistiquement, tu te trouvais pas doué ?
Mais tu sais, j'ai dû dire ça. Mais tu sais, la notion de talent, elle est un petit peu... Elle est assez mal perçue chez nous. Je pense qu'en général, on fait une grosse erreur quand on commence à recruter des jeunes par rapport à la notion de talent. Le talent, pour nous, c'est beaucoup c'est la technique. Un gamin qui a une espèce de fluidité avec la main, le bras, c'est là-dessus. Mais moi, j'avais un autre talent, c'est que j'étais enragé, quoi. J'avais vraiment envie d'être un très bon joueur de tennis. Et ça, je pense que, pas consciemment, inconsciemment, je pense que Patrice Beust et après Patrice Agel ont reconnu ça. C'est-à-dire que je regarde des fois des vidéos, c'est étonnant, parce que je suis plutôt tranquille, déconneur de nature, mais sur le terrain, putain, le regard, j'étais enragé, quoi. Donc il y a un peu cette double personnalité en moi, c'est-à-dire d'un côté un le rigolo, et puis d'un autre côté, putain, quand il s'agit d'y aller, je suis un enragé. Et j'étais doué pour ça. Et c'est vrai que par rapport à certains copains de ma génération qui, tu sais, on faisait des séries de revers le long de la ligne, j'en gagnais pas une. Coup droit le long de la ligne, j'en gagnais. Alors au service, par contre, j'étais bon. Pourquoi j'étais bon? Parce que je m'entraînais tout seul. Revers, tu peux pas t'entraîner tout seul. Coup droit, tout ça, tous les autres coups. Et donc, je m'entraînais beaucoup. Physiquement, je m'entraînais tout seul. Et ce qui fait qu'à la fin, quand il a fallu faire les comptes, résultat, Yannick, super service, super physique. Et c'est de là que c'est venu. Et oui, pour ça, j'étais doué. J'étais doué pour le travail. Et ça, aujourd'hui, ça, c'est important qu'on essaye de faire la différence et en tout cas percevoir chez un gamin lorsqu'on va filer des bourses, autre chose que la jolie technique. Parce que quand on regarde après 20, 30, 40, 50 ans de tennis français,
bien sûr.
Ce qui revient très souvent, c'est des joueurs qui techniquement sont bien, mais mentalement pas assez fort. Et c'est pas parce qu'ils l'ont pas naturellement, c'est qu'en plus de ça, ça arrive de l'avoir naturellement pour des raisons qui sont diverses. Mais ça se travaille, et ça, on travaille pas ça. Et j'avais ça. Et en fait, pour répondre à ta question, j'étais pas doué, parce que c'est vrai que mon revers, il était un peu arraché, et mes coups étaient arrachés. Je me suis démerdé avec ça.
Pas trop mal. On va pas parler... 100 ans de Roland-Garros 83, parce que déjà t'as dit qu'au bout d'un moment t'en as marre, qu'on t'en parle, mais surtout je pense que tu as quasiment tout dit dessus.
Ce qui compte,
vas-y.
Ce qui compte, c'est tout sauf le match. Ce qui compte, c'est ce qui vient après le dernier point. Ce qui compte, c'est l'émotion. Ce qui compte, c'est les larmes de joie. Ce qui compte, c'est la gueule des gens dans les tribunes qui sont tellement heureux. Ce qui compte, c'est les gens devant leur télé. C'est ça qui compte. C'est pour ça qu'on fait ce sport. C'est pour ça que je ne pensais pas que c'était aussi fort. Mais inconsciemment, quand tu te, visualises dans tes rêves le moment où tu gagnes la dernière balle de match et tu prends la coupe. Mais il y a un truc en plus, c'est l'émotion. L'émotion, c'est ce truc-là, c'est pour ça qu'on joue, c'est pour ça qu'on se bagarre, c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les matins, c'est pour ça qu'on a des crampes, c'est pour ça qu'on stretch, c'est pour ça qu'on muscule, c'est pour ça qu'on transpire. C'est pour pouvoir avoir la chance de vivre ce truc personnel, mais pouvoir le partager avec des milliers, des millions de gens. Ça, c'est fabuleux. Ça, ça donne envie. C'est ça, c'est pour ça qu'on se bagarre. L'autre fois, j'étais devant la télé tout seul. J'ai vu Liverpool, mec. Putain, c'était extraordinaire, mec. Tout ce stade qui chantait, les gens qui pleuraient, les gamins, les parents, les vieux, les jeunes, tout le monde. Putain, le match, je m'en fous complètement. Parce que si c'est ça que tu vas chercher, c'est magnifique. Mais ça se prépare, tout ça, parce qu'il faut préparer les chants.
Bien sûr.
Il faut les connaître, les chants. Nous souvent, les supporters, plutôt spectateurs. Tu vois, moi, je joue au stade ici, on est plus... Alors, il y a certains endroits, tu vois, à Marseille ou à Lens, où il y a des publics fantastiques. Mais putain, Liverpool, mec.
Ouais.
Quand je vais à Paris, purée, c'est pas ça, mec. Et moi, si je suis joueur, moi, si j'avais été un des meilleurs joueurs de foot du monde, mais moi, je vais à Liverpool, mec.
Ouais.
Parce que moi, je vis pour ça, quoi. Tu cours tes portées. Et moi, Roland, quand j'ai joué ce match-là et plein d'autres matchs, parce que j'ai gagné qu'une fois le tournoi, mais j'ai joué des matchs. J'étais porté quand même par quelque chose, tu vois, par une espèce de truc comme ça. Et c'est pour ça qu'on joue. Et ça me rend fou, tu sais, quand ces matchs, tu vois, t'es téléspectateur, j'étais pas à Liverpool, mais. Ce moment-là, c'est ce moment qui donne envie d'être joueur de foot. C'est ce moment-là qui te donne envie d'être athlète. C'est ce moment-là qui te donne envie d'être spectateur. Une minute après, ils coupent, putain, pour mettre la pub. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout péter. C'est pour ça qu'on fait du sport. Et à ce moment-là, on met la pub. Alors, c'est une marque de bagnole. Jamais j'achèterai cette bagnole. Ils m'ont défoncé mon kiff. C'est vrai, mec. C'est vrai, je vais pas te parler de ma tactique contre Mats.
Ouais, mais... Et ça t'a aussi donné une occasion magnifique de dire « Papa, je t'aime ». Ça, je l'ai lu.
Ouais, tu sais, nous, on avait un... Chez nous, on se disait pas... une génération, on se disait pas les choses. On disait pas les choses, on se prenait pas dans les bras. Ma mère, je lui disais, quand elle venait me chercher à l'école, surtout, me fais pas la bise devant mes potes, c'était la honte. Tu vois, on était un peu comme ça, tu vois. Et on parlait pas des sentiments. Et ouais, c'est ce moment-là où, tu vois, mon père qui c'est mon père, c'est indiscret, quoi. Il saute sur le terrain. Il s'explose la gueule, le dos, il tombe sur le dos, il court. C'était incroyable. Incroyable de voir. Et ouais, c'est ça, c'est de ça que les gens se souviennent. Parce que c'est le vrai truc, merde. Tu pleures dans les bras de ton père de joie, mec. Qui est-ce qui a fait ça dans sa vie?
Ouais.
C'est rare. Mais tout le monde rêve de faire ça. Donc, si tu veux, à travers ce moment, je l'ai vécu un truc, c'est que je suis devenu le fils de plein de gens devant leur télé. Je suis devenu le frangin de plein de gens parce que les gens ont pleuré de joie, quoi. Parce que bon, pleurer de tristesse, on pleure, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Mais de joie, c'est rare. Alors, dans les bras de ton père. En plus, tu vois, je suis châté. C'est passé à la télé. Donc, tu vois, les gens, ils c'est tout le temps. Oh, monsieur Noir. Oh, Yannick. Oh, je peux te tutoyer. Il y a quatre jours, j'étais en train de jouer au golf avec Guy Forget. On est en train de se balader et tout d'un coup, il y a deux messieurs d'un âge avancé qui poussaient leur chariot et à un moment, ils nous laissent passer parce qu'ils jouaient lentement, ils marchaient lentement. Et on passe et le monsieur me regarde, je sais pas, il devait avoir 75, 80. Il me dit, oh, excusez-moi, monsieur, mais là, je suis ému, là. Là, je suis ému. Là, de vous voir, c'est la première fois que je vous vois de visu, mais de ce que vous avez compté, ce moment, tellement il a compté, on était tellement heureux. Merci, monsieur. Et je suis passé, putain, mais j'avais la chair de poule, limite les larmes aux yeux, je dis, mais putain.
Ça te fait toujours un.
Ah, mais tout le temps, effet. Tout le temps, tout le temps. Et c'est pas que je rabats, je suis pas en train de balader dans le jeu, de gagner Roland Garros. Ouais. Pas du tout. Pas du tout, mais la richesse, elle est là, quoi. C'est-à-dire que ça me maintient en émotion.
Ouais.
Tu vois, je reste émotif. parce que ça compte, ça. Et les gens me rappellent tout le temps ce bon moment. Parce que normalement, ça devrait être terminé, tu vois. Mais non, les gens... Je prends par exemple le cas d'Amélie Mauresmo,
ouais.
ma sister. Elle a gagné Wimbledon. Mais le jour où elle a gagné Wimbledon, il y avait une autre, il y avait ou le Tour de France, ou un match de match Coupe de du Monde de foot. Ouais. Et c'est passé un peu inaperçu. Alors ouais, quand j'en parle avec des copains qui étaient... Mais elle a pas ce truc-là. Moi, j'ai ce truc-là. Et c'est fou, quoi. La différence, parce que bon, en plus, sa mère, elle était numéro un mondial, tu vois. Mais ce truc, c'est, ça me porte. Voilà, ça me porte, ça me donne envie. Voilà. Donc, c'est ma richesse.
C'est toi qui viens de dire le mot, tu viens de dire Amélie Mauresmo, c'est ta sister. C'est vrai que t'es un peu le grand frère un peu éternel du tennis français, parce que dès qu'il est un peu en difficulté, eh ben, il fait appel à toi. Il te demande ton avis. Il vient te chercher. Comment t'expliques cette relation avec le tennis français? T'en as conscience que ça, qu'à chaque fois qu'il est en difficulté, il vient te chercher?
Ouais, en difficulté ou pas. Ouais, il y a des moments comme ça de timing, voilà, où tout d'un coup, les astres sont alignés, voilà, les énergies se retrouvent et on peut partir ensemble. Besoin de moi, ouais, j'aime ça. J'aime transmettre. J'arrive à un âge où tu as envie de transmettre. Ouais, je suis papy, moi, j'ai trois petits-enfants. Donc tu transmets. Maintenant, le plaisir, c'est de transmettre. Tu vois, ouais. Voir tes gamins grandir. Tu vois, s'épanouir, devenir des gens bien, tout ça. C'est, voilà, tu transmets, c'est ce qui reste. Moi, j'ai déjà eu tellement. Donc maintenant, c'est transmettre. Et ouais, transmettre tes envies, transmettre ton expérience, et puis aider, quoi. Moi, quand je donne un petit mini-conseil à un gars ou une fille et que ça marche, c'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Et ouais, on fait appel à moi. Et là, récemment, on a fait appel à moi, mais je sais aussi... qu'il y en a beaucoup qui sont contents quand je pars.
Ouais.
Qu'ils aillent tous se faire foutre.
T'as gagné 3 fois la Coupe Davis en tant que capitaine. 3 groupes différents, des générations différentes.
Ouais.
Comment t'es arrivé à t'adapter à ça?
Écoute, la dernière campagne était la plus compliquée parce que il y avait quelque chose qui était fort quand on se préparait, c'est qu'on allait au vert.
Ouais.
Et c'est fantastique d'aller en stage loin de tout, loin des différentes énergies plus ou moins négatives, se retrouver entre nous et se préparer, bien entendu physiquement, tennistiquement, c'est la moindre des choses, mais aussi mentalement, comment partir sur le projet. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible parce que les jeunes, les joueurs, cette génération de joueurs et enfin moi j'ai un gamin, enfin cette génération là, ils sont jamais là. Ils sont jamais là. Ils sont toujours sur leur téléphone ou leur ordi, toujours, et ils sont jamais dans l'action. Jamais dans l'action, ils sont toujours ailleurs. Et quand ils sont parfois là, ils pensent toujours à l'extérieur. Or la base même du jeu, c'est d'être ici et maintenant, à 100%. Tu peux pas être à l'entraînement à 80%. À ce niveau-là, c'est pas possible. Et là, l'aspect de concentration est primordial, vital. Et maintenant, il y a ce truc-là. Donc, je savais un petit peu, mais c'est ça qui a été... Ça, c'est assez compliqué à gérer. Et puis après... ouais, c'était des joueurs différents, des joueurs moins forts. Forger, Henri Lecomte, quand ça joue, c'était du top 6-7 normal. Donc, tu vois, c'était fort. La deuxième, il y avait Cédric qui était un top 10 solide. Arnaud, Guy Andou qui était meilleur du monde. Ouais. Donc, il y avait du lourd. Là, l'équipe était moins forte sur le papier. Mais on a gagné. On a gagné, donc on a eu nos moments très très forts entre mecs, très très forts. Et ça faisait 20 ans que j'avais pas fait ça. Et je suis content que ce soit terminé et je suis content parce que après tout ce qu'on a vécu, je pense qu'on est, il y a des photos qui traînent chez les uns les autres. Il y a ma gueule dessus. Ouais. Alors je sais pas si c'est dans les toilettes ou sur le salon, sur la cheminée ou tu vois un truc, mais on a la coupe de la finale, on a la coupe de la victoire, des souvenirs, des bonnes rigolades, des bonnes engueulades. Ouais. Mais je me suis encore enrichi parce que là-dedans j'ai des potes. Ils sont plus jeunes, mais j'ai des potes et des filles aussi, parce que les filles c'était bien cool. Je me suis bien éclaté avec les filles. C'était bien sympa.
Qui sont les joueurs avec qui ça a été compliqué?
Le plus compliqué de loin, c'est Gaël Monfils.
Ok.
Voilà, il y a les autres, c'était pas compliqué. On fait le travail. Moi, en tant que capitaine, mon rôle, c'est de les motiver, de faire en sorte qu'ils soient meilleurs. C'est mon rôle. Et quand on perd, c'est pas de leur faute. Et quand on gagne, c'est pas grâce à moi. On est ensemble dans le truc. Mais avec Gaël, c'était une grosse, c'est une énorme déception. Énorme déception. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il a joué un match.
Ouais.
Qu'il voulait pas jouer.
En plus.
Parce que c'était un rêve fou que j'avais, qui était à la fois, c'était pas politique, c'était juste un rêve fou, c'était purée, faire venir une équipe de France à la Guadeloupe ou à la Martinique,
ouais,
dans les
symbolique.
Dômes, c'était un truc, je me disais, mais putain, c'est tellement classe, mec, tellement classe, et j'ai utilisé de tout ce que j'ai pu, parce que moi j'ai eu une frustration, c'est que je suis français, et pas de stress, je suis français, mais je suis aussi camerounais, j'ai jamais joué au Cameroun, tu vois, j'ai jamais amené, fait mon show là-bas, tu vois, mais le vrai truc, en exil, c'est pas pareil, mais le vrai truc, je l'ai jamais fait chez moi, quoi, j'imagine une seconde, un match, un vrai match de Coupe Davis à l'époque où je jouais, au Cameroun, c'est pas possible, c'était bien entendu pas possible, mais ça aurait été un stade de 80 000 plein, mec. Un truc de fou, quoi. Ça aurait été un truc à vivre extraordinaire. Et j'avais cette espèce de... ce petit manque, merde, j'ai pas fait le truc, tu vois. Et donc, je me dis, je vais l'organiser pour Gaël, quoi. On peut le faire pour Gaël. Et c'était pas facile, hein. C'était pas facile, parce que je m'en suis pris dans la gueule, parce que les gens pensaient que... En gros, je faisais ça pour amener le tennis chez les Noirs, quoi. Enfin, il y a quand même des abrutis, mais qui comptent des abrutis? Ils sont là, ils ont le droit à la parole. Et en fait, on est allé et ça se fait, quoi. Il y a Joachim, il m'appelle, il fait « Mais papa, t'as fait un truc de malade. Putain, c'est fabuleux. Je viens. » Mon père, il m'appelle, il dit « Mais Yann, mais tout le monde, c'est un truc. » Le retour qui est venu. Mais c'était un truc de fou. Un mec dit c'est pas une bonne idée. C'est Gaël. Non mais sérieux, c'est Gaël. Le seul mec qui a dit que c'était pas une bonne idée, c'était Gaël. Donc c'est commencé comme ça. On l'a quand même fait, il est venu. Et si tu veux, la dernière fois que je l'ai eu sur le court, c'était donc ce match.
Ouais.
Il gagne. Et il vient dans mes bras et me dit « Yann, c'est le plus beau jour de ma vie ». Et je me dis, putain, c'est le début d'un truc monstrueux. Parce que j'ai toujours eu envie et j'ai toujours rêvé de l'aider, lui. Parce que je pensais qu'il y avait quelque chose. Mais c'était pas possible parce que j'ai jamais pu l'avoir et qu'on s'est jamais vraiment rencontré. Ouais. Et ça, c'est une frustration. Sinon, le reste, on a fait le maxi avec les gars. Voilà quoi, on a gagné.
Quand on gagne, on arrête de chercher des solutions et tout ça. Est-ce que tu crois que pour nos joueurs français, ils ont gagné jusqu'à un certain point et d'un coup, ils ont arrêté de chercher? Est-ce que c'est là le secret? En plus de la génération exceptionnelle.
Ouais, ça dépend de l'objectif. Ça dépend de ton objectif. Les joueurs qui ont arrêté qui ont plus envie, ça veut dire que leur objectif était pas très, très élevé. Parce qu'en gros, je suis le dernier mec à avoir gagné Grand Chelem, c'est pas possible.
Ouais.
C'est juste pas possible, c'est trop long. Et avant ça, c'était Marcel Bernard.
Ouais.
Donc moi, je dis souvent que moi, c'était presque un accident.
Ok.
Là-dedans. Donc il y a quand même un problème vaste. Comment se fait-il qu'avec nos structures, nos moyens, on n'y arrive pas? La réponse, c'est qu'il faut qu'on réforme notre façon de travailler, notre approche du sport. Ça commence par moi, ça commence par toi, ouais, par ton frangin, par tout le monde. Tout le monde, les entraîneurs, les parents, les médias. Les gens comprennent rien, quoi. Ouais. Des fois, je regarde des matchs, je dis, mais c'est pas possible ce qu'ils disent, quoi. C'est pas possible que tu... Pour avoir les droits d'un match, d'un grand chelem, ça vaut des thunes, mec. Le gars qui te fait les sous-titres, qui t'explique ce qui se passe, c'est un gars qui est moyen, quoi, pour pas dire plus. C'est terrible. C'est terrible. Parce que les milliers, les millions de gens qui regardent un match, ils regardent le match, mais il y a les trois quarts ont besoin qu'on leur explique ce qui se passe.
Bien sûr.
Mais t'as déjà écouté, bien sûr, tu l'as fait. Vu un match commenté par John McEnroe, mec.
Ouais.
Putain, le match, tu le vois pas pareil, quoi. Tu comprends ce qui se passe, tu anticipes les trucs, il te donne des anecdotes, mais il t'explique du tout ce qui se passe au niveau du jeu, au niveau de tactique. Moi, j'entends encore des trucs. Le jeu le plus important du set à 4-3, parce que Jean-Paul Loth l'a dit il y a 50 ans, tous les mecs reprennent ça. C'est ridicule.
Ouais.
Et on en est là. C'est-à-dire que donc, le fan de base qui regarde le match, il entend ça, quoi. Il entend ça. Donc, il y a vraiment un travail de fond, mais très profond. Je pense que, ouais, pour répondre à ta question, l'objectif est pas assez élevé.
Pourtant, tu vois, Joe, il l'a dit durant sa carrière, qu'il voulait gagner un grand chelem. Gaël le dit encore, là, cette année. Et je les comprends, ils ont pas été loin. Joe, il a fait finale de grand chelem, il a 21 ans. C'est-à-dire que...
Premièrement, enfin, je pense que tu dis jamais quand t'es 30e mondial, je veux gagner un grand chelem. Tu dis pas ça. Tu dis pas ça parce que ça veut rien dire. Tu dis je veux gagner un grand chelem, t'es 30e, t'as 29 mecs devant, dont 4-5 qui sont un petit peu au-dessus, tu vois, et tu dis je veux gagner. Bah oui, bah toi aussi. Tonio, tu veux gagner un grand chelem, toi?
Bah j'aurais adoré.
Bah moi aussi, là, maintenant, demain, ouais, tout le monde veut, le président de la Fédé, il veut gagner des grands chelems. Oui, tout le monde veut gagner des grands chelems. Tu joues au tennis, tu veux gagner. Non, mais il y a un moment. La motivation, ouais, c'est qu'est-ce que tu fais depuis un mois, là, il y a Roland qui arrive, je sais pas qui tu es, tu dis que tu veux gagner Roland, il y a un mois, là, c'est quoi ton projet, là, t'es où, là, t'es en train de faire attaquer ta sixième heure d'entraînement, là, avant un... Où est-ce que tu en es? Bah oui, je veux gagner, mais bon, ça va, ça fait un titre dans les réseaux, et puis c'est ouais. Bon, quoi, tu vois, mais tu fais quoi? C'est bon, en anglais, tu sais, you have to put your money where your mouth is, tu vois, et voilà, à un moment, tu parles, mais c'est bien de dire ça. Mais qui est-ce qui fait vraiment le travail? Et je parle pas que du travail tennistique, hein. Qu'est-ce qui va aller chercher comment on travaille la tronche? Qu'est-ce qui va trouver les bonnes personnes pour, tu penses que Federer, lui, il s'entraîne juste en jouant au tennis?
Ouais.
Tu trouves pas que quand il rentre sur le terrain, il est un petit peu en place dans sa tronche? Tu crois que c'est venu comme ça naturellement? Rafa, qui a rien à voir, mais tu crois qu'il travaille pas autre chose que taper des balles? Tu crois qu'il a, il gamberge pas? Tu crois pas qu'il est accompagné? Ben, nous, non. On fera ça plus tard. Alors bon, moi, pour déconner, je dis ça m'arrange. Moi, je suis le dernier. Ouais. Je suis tranquille, hein.
Ouais, c'est vrai.
Je suis tranquille.
Justement, Yannick Noah, avec sa carrière, a inspiré des gens. Mais qui a inspiré Yannick Noah?
Il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut survivre là-dedans.
Ouais.
Et mes héros, les gens qui m'ont inspiré, ce sont des gens qui se servaient de leur talent pour faire avancer le schmilblick. Coluche. Ouais, c'est mec drôle, mec intelligent, mais les restos du cœur quand même. Mohamed Ali, grand champion, mais putain, comment il s'est mouillé pour les plus démunis. Arthur Ashe, comment il s'est bagarré. Bob Marley, Fela, tous ces mecs qui se sont engagés. C'est pas juste un chanteur. C'est pas juste un champion. C'est autre chose. C'est au-dessus. Il y a des mecs, oh, mais qui est le meilleur? Pour moi, le meilleur, c'est Ali, parce que Ali, c'était pas juste un boxeur. Ali, il a fait bouger les choses dans la société américaine. Et oui, oui, ben, ça lui a coûté, hein. Il a fait 4 ans de sans licence, interdiction de boxer, alors qu'il était dans sa meilleure forme. Il est revenu, il a regagné le championnat du monde, mais pendant 4 ans, il a pas pu faire un combat, mec. Et il s'est battu parce qu'il dit, moi, je vais pas à la guerre, parce que c'est une guerre de merde. Et 20 ans après, ils se sont aperçus que c'était une guerre de merde, mais il était un peu en avance, mais. Donc, ouais, il faut, oui, je me suis retrouvé des fois, un petit peu, tu vois, j'étais une genre de cible facile. Mais ça doit pas changer ma façon de voir. Ça va pas, non, ça, je peux pas te faire éclabousser par de la merde.
Ouais.
Et je me suis fait éclabousser souvent.
Oh, bon, t'as compris que ça
je suis assez rapide, tu sais, non, mais j'esquive.
Ok.
Tu vois, les mecs qui ont gueulé il y a 5-6 ans, qui ont balancé, ben, ils sont plus là. Ils ont disparu. Je suis toujours là. Et puis voilà, et toujours pareil. Moi, de toute façon, mon kiff, c'est, tu vois, d'aller faire une émission de télé. T'as des gamins qui voient ça, et puis me retrouver à l'hôpital après, les gamins. Tout d'un coup, ça a un sens. Oh, je vous ai vu à la télé, ils ont l'impression d'avoir vu Dieu, parce qu'ils pensent que quand tu passes à la télé, t'es Dieu. Ouais. Mais tu vois, tu te retrouves dans la chambre avec les gamins, tu leur donnes du rêve. Mais ça, c'est inestimable. Les gens, ils se branchent sur des combien tu gagnes, combien t'as payé d'impôts, ouais. Combien de points tu as gagné, combien d'argent gagne ton fils, qui est le père de la fille, enfin, mais sans déconner, mais l'objectif, quoi, comme je te dis partagé, je suis là, c'est pour, on parle tous les deux, on le fait avec ou sans micro, mais là, on a les micros, c'est pour parler à des gens, tu vois, pour essayer de te donner un peu envie, parce que tiens, moi, cette situation, je l'ai un peu vécue, ah, ben, tiens, il y a un petit peu de ça, ouais, ça, c'est peut-être pas con, ou ça c'est complètement débile, je suis pas d'accord, mais qui a un truc, mais positif, quoi.
Ouais.
Qui a un truc positif. Et ouais, c'est bien sûr que pour faire avancer les choses, il faut donner de l'amour. Bien sûr. Et à qui tu veux donner de l'amour, plus qu'à des gamins? Bah, tu donnes, ouais, tu aides des gamins. Ouais, j'aide des gamins. Ouais, à chaque fois que j'ai un doute, je fais comme si je pense c'était mes gamins. Qu'est-ce que j'aurais dit à mon gamin? Parce que là, c'est l'amour inconditionnel. Mmh. Voilà, tu donnes ça. Et puis ceux qui en veulent pas, ben tant pis. Peut-être qu'ils ont d'autres choses. Je suis très content pour eux. Hein. Je suis très content pour eux.
Du coup, les enfants de la Terre, faites le mur.
Ouais, faites le mur. Là, je fais un truc, là, un concert, là, le psychodon. Tu vois, pour mettre en lumière un petit peu les maladies psychiques.
Mmh.
T'as quand même, enfin c'est un truc de malade. Enfin bon, autour de nous, on a tous des quelqu'un qui ou c'est bipolaire. Enfin bon, bref, toutes les maladies psy. Une personne sur 5 en France, tu savais ça?
Non, vas-y.
Est touchée par une maladie psychique et donc c'est tabou, on n'en parle pas et on gère chacun de son côté et on n'est pas aidé par des professionnels. Et donc voilà, donc tu disais enfant de la Terre, faites le mur, je fais ça. Voilà, quand je peux, je le fais. Il y a des choses qui sont officielles, d'autres moins. Mais moi, de voir la gueule d'un gamin à qui je viens de donner un truc, qui part en courant, moi, ça m'en fout, quoi. Je te jure, ça m'en fout. Ça m'en fout. J'étais sur une terrasse, là, tout à l'heure, et un petit, il est arrivé avec un papier. Et j'ai signé un truc. Comment tu t'appelles? Il m'appelle Nicolas. Tiens, pour Nicolas, mon pote, il regarde, il est parti en courant, il avait une banane. Tu te dis, mais t'imagines, avec un papier, un stylo, j'ai donné un petit bonheur à un petit gamin, là, pendant quelques minutes. Bah, c'est, ouais, donc, ouais, humanitaire, pas humain, enfin, ouais, je suis un être humain vivant, quoi. Le jour où je serai cynique, non, je serai jamais. Ou alors, il faudrait que je deviens un peu débile quand je bois trop.
Ah ouais?
Ouais, je deviens un peu débile. J'ai des conneries, je suis agressif.
Ah ouais?
Ouais, ouais, grave. Tous des enculés, des enculés. Et bon, ça fait pas trop avancer le schmilblick.
Peu importe où tu vas, t'es reconnu. T'en as pas marre, parfois?
Non, parce que sinon, je vais être dans un endroit où je suis tranquille. Donc à partir du moment où je suis là, je joue le truc.
Ouais.
Je fais le truc à fond. Et quand ça bascule, et ça m'est arrivé il y a longtemps.
Ok.
Où ça bascule, où ça devient trop, parce que il y a plus que ça. Donc forcément, j'existe plus. Il y a que le Yannick Noah, il y a le petit Yann dedans là, qui la petite voix, elle n'existe plus parce que c'est. Et un jour, j'ai dit ça à mon père. On était sur une terrasse à Saint-Germain et on parlait tous les deux. Et puis on était interrompus sans arrêt.
Ouais.
Et puis il y a papa. C'est papa là, moi franchement là, c'est un peu dur là. Moi j'ai envie de me, j'en peux plus de tout ça. Il me fait, ne me fais pas chier. Si tu voulais être tranquille, tu n'avais qu'à perdre à Roland Garros. Et ça, je garde. Je dis validé. Donc tu sais, moi j'aime bien habiter à la campagne. Je suis à la campagne. Et puis quand je viens à la ville, je suis dans les lieux publics. Mmh. Je sais que c'est comme ça. Ça c'est comme ça que c'est, voilà. Y a des moments où ça paye, j'ai envie d'être un peu spectateur de la vie et des gens. Ben, j'ai passé beaucoup de temps à New York. Ouais. Deux de mes enfants sont nés là-bas. Je pouvais être spectateur de la vie aussi. Parce que moi, j'aimerais bien être spectateur de la vie en France. Pouvoir regarder un petit peu les gens être sur une terrasse, à regarder les gens passer tranquille. Mais bon, ben voilà, on peut pas tout avoir. C'est comme ça, tu vois.
T'as commencé à mentionner ta famille, tes enfants. T'es le papa de Joachim, que j'ai un peu côtoyé en Floride, parce qu'on a fait la même université, de Yelena, d'Elija, Jenaye et Joa Lucas.
Mm-hmm.
Quand Joachim signe aux Bulls, ton fils, dans l'équipe d'un de tes mentors, qui est Phil Jackson,
mm-hmm.
le coach des Bulls de l'ère Jordan,
ouais.
ça te rend pas dingue, franchement ?
Non, mais tu sais, il y a des moments, et très souvent des choses qui se sont arrivées dans la vie, où je dis, il y a quelque chose... qui se passe au-dessus de moi, voilà, ça que ce qui est plus fort que moi, je sais pas comment appeler ça, la chance,
ouais.
mais une chance reconnue, le destin, Dieu, Jah, Rastafari, ce que tu veux, mais tout ce qui est, c'est un truc beau, où là je suis, je sais pas qui remercier quoi.
Ouais.
Michael Jordan, c'était, tu vois, j'ai plus jeune que moi,
ouais.
mais on moi, j'étais déjà dans les top joueurs mondiaux. Un des agents à l'époque, c'était McCormack et Dell Proserve. Et Donald, c'était mon agent, parce que Donald avait été aussi l'agent d'Arthur Ashe.
Mm-hmm.
Et je suis chez lui à Washington, pendant le tour de Washington. Et il me dit, tiens, je viens de signer deux jeunes gars qui viennent d'être draftés. C'est un petit gars qui s'appelle Michael Jordan. J'ai dit, oui, je vois le mec là de North Carolina.
Ouais.
Et Patrick Ewing de Georgetown. Et ils arrivent là. Et là, j'ai Michael Jordan qui arrive avec Patrick Ewing. Et ils me demandent de leur signer un autographe. Quoi.
Mais non.
Et, Mr. Noah, yeah, man. Mr. Noah, man. Respect, man. You know, you give us so much inspiration. Bon, bref. Un an après, il est au Bulls, il défonce.
Ouais.
Et si tu veux, j'avais les premières Jordan taille bébé signées par Michael. Et Joe Hughes, il a commencé à jouer, il avait les posters, c'était Michael partout, Bulls, quoi. Et quand il est drafté au Bulls, j'ai dit, putain, mais c'est juste pas possible, ouais. quoi. Il aurait pu être n'importe où ailleurs. Mais au Bulls, j'ai dit, il y a des choses qui sont écrites des fois comme ça. Et tu dis, bon, allez, tu sais quoi, dans ce moment, tu restes hyper humble. Tu dis, putain, merci, et donc on va profiter de la chance, quoi. Et c'était incroyable. Et puis bon, après, mais même le fait qu'il soit joueur de basket, c'est un truc qui m'hallucine. Le parcours, ça m'hallucine.
C'est ça qui est incroyable. Comment tu expliques ça? C'est que ton père, il gagne la Coupe de France au foot. Toi, tu décides de faire du tennis et pas du foot, et tu gagnes Roland. La Coupe Davis trois fois en tant que capitaine, la Fed Cup. Tu te mets à la chanson, tu fais le Stade de France. Ton fils, lui, il veut pas jouer au tennis, il veut jouer au basket. Il joue pour les Bulls, il devient All-Star, meilleur joueur défensif de la saison 2014. Voilà. Jenaye, qui est mannequin, a fait la une de Elle. Ça vient d'où? De Simon Papatara, de grand-père Perrier, des ancêtres de...
Ça vient de tout, mais je peux juste... Enfin, ma mère était une guerrière.
Ah ouais?
Et mon père était un guerrier. Si on regarde, si tu veux, le point commun qu'on a entre Joachim, papa et moi, c'est qu'au départ, on n'est pas doué, quoi.
Mm.
Dans le sens technique du truc, on est plutôt outsider.
Ouais.
Tu vois. Mais on a un truc en commun, c'est qu'on est des enragés. Papa, c'était un enragé. C'était un défenseur correct, dur, dur au mal. Un bagarreur. Moi, j'avais ça. Et Joachim,
ouais.
Il a ça.
Ouais, Joachim,
quand tu parles de Joachim, mais il a toujours eu ça.
Ouais.
12 ans, quand il perdait, il pleurait. Des fois, je l'amenais, tu vois, il jouait à Levallois, je l'amenais, tu te fais 50 bornes, 60 bornes. Tu vois, parce que j'habitais à la campagne, le week-end, il avait les matchs le matin, il jouait contre les abeilles de Rueil-Malmaison. Il était remplaçant, tu sais, de sa catégorie d'âge. Hein. Il était mais au bout du banc, tu vois. Et puis, des fois, on faisait 80 bornes, il jouait pas une seconde. Des fois, il jouait 2 minutes, il prenait un rebond. Il me disait, t'as vu le rebond que j'ai pris, papa? Putain, ouais. T'as vu le rebond? Il a toujours ce truc-là. Et quand, tu sais, tu fais un fast-forward et tu te retrouves genre 15 ans après, et tu vois Joachim Noah, passionné, bagarreur, dur au mal, travailleur, c'est des choses qu'on a en commun. Et ma mère avait ce truc-là aussi. Donc après, voilà, on a 3 générations de sportifs. Ouais, il y a des gars qui le font aussi, hein. En foot, Thuram, enfin, il y a
ouais.
Zidane, enfin, ça existe. Mais sur 3 générations, c'est plus rare. Et 3 sports différents,
c'est
encore
ça.
Moins. Encore plus rare. Mais moi, ouais, le point commun, c'est ça. Je suis pas passé d'un cours à une scène, quoi.
Ouais.
Tu vois, ouais, entre Roland Garros et Stade de France, il y a 25 ans ou 30
Bien
ans,
sûr.
Quoi, tu vois. Mais il y a une vie, quoi. Et il y a cette espèce de sentiment que c'est facile. Et j'ai calculé, en fait, je me suis dit, bon. En fait, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Tu vas arriver à quelque chose, mec. Tu vois, les gamins, là. Ouais, chanter, je vais être machin, jouer. Non, c'est 10 ans, mec. Tu sais quoi? C'est 10 ans, 4 heures par jour. Et tu prends le dimanche. Tu fais ça 10 ans. Tu veux être guitariste? Tu veux être guitariste, mais un vrai guitariste.
Ouais, ouais, ouais.
Tu fais ça 10 ans, 4 heures par jour, je pense que tu vas un peu toucher ta bille. Tu fais ça 10 ans en tennis, de 8 à 18, 4 heures par jour, sauf le dimanche, tu vas toucher ta bille. Tu vas toucher ta bille. Tu vas être médecin, mais t'es un médecin de malade, mec.
Ouais.
Tout ce que tu veux. Mais 10 ans, quoi. Et dans une vie, c'est pas grand-chose. Et puis 4 heures par jour, il reste quand même du temps pour les copines, il reste du temps.
C'est important.
Donc c'est toujours très important. Il faut... Mais c'est tout. Mais c'est pas gratuit, quoi.
Ouais.
C'est le boulot. Mon père m'a fait comprendre ça hyper tôt. Putain, je... Merci. Ma mère, pareil. Ils m'ont fait comprendre ça. J'avais 12 ans, mais j'étais un... Et à 12 ans, je suis responsable de ma life, mec. Donc, mon problème, ouais, de pleurer parce que je voyais pas maman, qu'on bouffait de la merde, que je me faisais bizuter. Mais d'un autre côté, à 12 ans, j'étais déjà organisé. La vie a fait que j'étais déjà fort, là. J'étais en train de me former, quoi. Quand je vois des mecs qui... Des juniors ou des joueurs qui... Ils chougnent sans arrêt, ils chougnent. Des garçons, des filles, c'est des hommes et des femmes. Un champion, c'est un homme, mec. Un champion, c'est... Une championne, c'est une femme, mec. Il n'y a pas des filles. Mec. Serena, c'est une femme,
ouais.
Mec. Je te parle, c'est une femme, quoi. Rafa, c'est un mec. C'est un homme. Tu vois? Roger, c'est un homme, mec. Tu vois, tu le vois. Et si la vie n'a pas fait que... Des fois, on dit, ouais, il faut se prendre un mur pour comprendre. Et je me suis dit, tu sais, pour motiver les autres... T'es pas forcé de te prendre un mur dans la gueule pour apprendre les choses de la vie. Mais c'est souvent ça. Pourquoi, comment on fait? Et en tennis, on est plutôt dans un monde aisé.
Ouais.
Tu vois, pour jouer, ouais, en général, par rapport à la majorité des sports. Mais comment faire pour motiver? Comment faire pour motiver? Et ça, je me suis penché là-dessus. Mais il faut qu'en face, qu'il y ait cette volonté d'avancer à ce niveau-là. Et on n'est pas super.
Ouais. On n'y est pas.
Ben, la preuve.
Ouais.
La preuve. Si je regarde le coup droit de la plupart des mecs, le revers de la plupart des mecs, le service, le physique des mecs, ouais, j'étais vaguement...
Ouais.
Pareil. Ben ouais, tu dis 23, enfin moi, tu me dis 24 tournois. Bon, 24, on va checker ça. Mais 23 tournois, 3e, ouais, un grand chelem, tu vois, premier en double, 16 double,
ouais.
Des trucs machin, mais c'est quoi la différence? L'idée, ça serait de se pencher vraiment dessus, pour peu que tu aies envie d'en gagner un grand chelem, tu vois, de se pencher dessus et d'aller justement progresser au niveau de ces faiblesses-là.
Il y a un maître qui pour toi a été très important. T'en as même fait une chanson et j'ai envie que tu racontes ça parce que la chanson raconte vraiment ce que t'as vécu et ce que t'as vu. C'est la chanson Simon Papatara. Mmh. Tu rends compte qu'un matin, tu te lèves alors qu'il est déjà parti. Mmh. Et tu le vois assis sur le bord de ton lit en costume.
Ouais, un jour, ouais, j'étais en train de dormir et puis d'un coup, petit matin, j'étais réveillé par mes chiens qui aboyaient. Mais à la mort, ouais, tu connais mes chiens, j'adore mes chiens. je sais très bien ce qu'ils disent, on communique. Et à un moment, mais je suis réveillé par ça et je dors toujours sur le ventre et je sens une présence dans la pièce. Un sentiment, mais de bonheur, mais physique. C'est un truc physique. Et je suis sur le ventre, et là, j'entends mon grand-père me parler. Et il me dit, écoute, c'est bien, continue à t'occuper de la famille, parce que par descendance, je suis sa réincarnation, des traditions camerounaises. Et je lui dis, ok, d'accord, est-ce que ça va? Il me fait, oui, ça va. Et là, au moment où je veux le voir, je me retourne, et il fait au revoir, et je le vois pas. Je ne le vois pas.
Ok.
Donc là, je suis réveillé, je me dis, attends, mais là, j'ai quoi? C'est un rêve fort.
Okay.
Et j'ai changé beaucoup avec ma copine. Elle m'a parlé, elle avait perdu son père aussi. Et là, je me retourne, je la regarde, elle avait les yeux ouverts. Bon, je dis rien parce que c'est pas le moment de lancer une conversation parce que là, on est pour la journée. Il est 5h30 du mat. Et puis, elle se rendort et moi, j'ai un sommeil trop agité, je pense qu'à ça. Je descends, je dis, écoute, je vais lui faire la totale, je lui fais un petit déj et je lui montre le petit déj et je lui raconte l'histoire. Je suis en train de faire le petit déj et elle descend, elle me dit, écoute, Yann, j'ai un truc à te dire. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle fait, bah, écoute, il y a ton grand-père qui est venu te voir ce matin. Et là, j'ai dit, ah là, c'est pas pareil. Parce que là, si tu veux, j'avais un témoin. Un témoin, bah oui, parce que sinon, je pense que j'en aurais jamais parlé et que j'aurais pensé qu'il y a une petite case qui déconne. Bon, je pense toujours ça, par contre, t'inquiète. Je pense qu'il y a un truc qui déconne, tranquille. Mais bon, je cache bien. Mais à ce niveau-là, ouais. Et j'ai raconté cette histoire à mon poteau Robert et il m'a écrit cette chanson qui est super parce que après, tu reçois plein de courriers, des témoignages, des gens qui ont vécu des choses aussi parfois similaires, d'autres différentes, mais qui, ouais. Ouais, je pense qu'il y a autre chose. Ouais, je pense que ça s'arrête pas là, quoi. Je pense qu'il y a autre chose. Quoi, j'en sais rien, mais il y a autre chose. La prochaine fois qu'on fera une discussion comme ça, je te raconterai qu'en pleine mer, j'ai vu un ovni. Je te raconterai ça.
Ah ouais?
Ouais, je te raconterai ça.
Tu parlais de cette chanson que, quand tu dis Robert, c'est Robert Goldman,
oui.
Le frère de Jean-Jacques, qui t'a écrit.
Qui m'a écrit plein de chansons.
Plein de chansons, ouais.
Angela, enfin plein de chansons.
Si je joue 4 accords de Simon Papatara, on la chante ensemble ou pas?
Il n'y a pas de problème, je suis chanteur. Tu touches là, t'habilles. Ouais,
ouais. C'est là. Si on fait, je sais pas, on fait... Ça va.
Tu es venu ce matin à l'heure où la nuit meurt. Tu es venu de si loin et où la mort ne fait plus peur. Tu es venu me parler un peu de notre vie, yeah. Même veste et même chapeau. Le Noah de fer africain. Oui, je sais que tu es en moi, Simon Papatara. Oui, je sais que tu vis en moi, Noah, pitié, Noah. Tu sais, grand-père, ici, il ne croit pas à ces choses-là. Say I know in God. Simon Papatara, say ya knowing God. Simon Papatara. Oh là là, on n'est pas à l'abri d'un succès, mec. On est pas à l'abri d'un succès. Là, là, là.
Quel bonheur.
À mon avis, ça a marché, cette chanson. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça a marché. Hein.
Ça peut être un tube.
Allez.
Je trouvais ça pas mal pour finir cet échange, de revenir à la source, à ta source, qui est Simon Papatara. Merci Yannick Noah pour cet échange.
Écoute, c'est un plaisir, mais ma source, mec, c'est Sedan. Je suis un sanglier des Ardennes. Je suis un Sedanais d'origine belge. Mon arrière-grand-mère était belge. Donc je suis né, puis j'ai grandi au Cameroun. Je suis donc entre les deux, café au lait, parfois plus café, parfois plus lait, souvent les deux, parfois ni l'un ni l'autre. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
Merci Yann.
À bientôt.
À bientôt Yann. Quand nous avons fini d'enregistrer, il n'est pas parti tout de suite. On a fumé une clope sur le trottoir devant le studio. Il a serré des mains, fait des photos avec les passants et il a continué de discuter, de raconter des histoires, ses histoires. J'aurais voulu qu'il y ait un micro d'ouvert. C'est pas grave. Il m'a promis qu'il reviendrait. À très vite pour un prochain numéro d'échange. Et d'ici là, prenez soin de vous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.